Ce sera quelle heure, Olivier? Dis-nous.
Vu qu'il est 11h, bien. Je te demande l'heure, comme ça j'adapte.
Écoute, si tu peux faire. Oui, j'ai pas envie que c'était déjà. Rendez-vous.
Bon. Bon. Ça fait plaisir de vous revoir. Alors bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Encore. Oui, alors je te laisse régler un peu. Merci. Donc comme Olivier l'a annoncé, le thème qui était prévu dans le cadre de cette série, tout le conseil de Dieu, le thème de ce matin, c'est le caractère de l'enfant de Dieu. Et j'ai juste été voir un petit peu ce qu'il y avait le week-end dernier, juste pour essayer de faire un peu le lien. Roland a parlé de tout l'aspect de la sanctification. Et en lisant le petit résumé qu'il en a donné, en fait, il a souligné, je souligne juste un élément qu'il a dit la semaine dernière, c'était le fait, l'importance de confesser ce que Dieu mettait en lumière dans nos vies. C'était un élément. Et il a aussi souligné que ce n'était pas par nos forces, mais que c'était par l'Esprit de Dieu et par son travail en nous. C'est lui qui fait l'œuvre, mais il demande cette petite collaboration de notre part, de cette confession lorsque l'Esprit souligne quelque chose. Alors je crois que, sans savoir ce qu'allait dire Roland, ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin est un prolongement en fait de cela. Il a vraiment posé ce cadre par rapport à la sanctification et moi j'étais amenée à descendre un peu, un cran en dessous, dans les profondeurs par rapport à ce cadre qu'il a donné. Toujours pour faire le lien, Christian a donné tout à l'heure une image qu'on pourrait peut-être projeter maintenant au Bimer. C'est une image que j'aime beaucoup parce qu'elle explique d'une autre manière ce que peut être la sanctification. C'est Manfred Engeli qui un jour a eu cette image quand il priait pour demander au Seigneur de lui expliquer cette question de vieil homme, d'homme nouveau, et il a reçu cette image. Donc, vous avez une maison en verre qui est un peu plus petite et qui est... En fait, ces deux maisons sont une image pour représenter qui nous sommes, notre vie. Et quand on n'est pas chrétien, il y a une maison qui est là, c'est la maison verte. C'est ce que Paul appelle le vieil homme. C'est l'homme qui n'est pas régénéré, c'est l'homme qui n'est pas en communion avec Dieu. L'esprit de cet homme-là est à l'état latent. L'esprit étant la partie de notre être qui nous permet d'être en communion avec Dieu, cette partie-là, elle dort. Par contre, l'âme est bien là. L'âme, c'est tout ce qui concerne nos pensées, notre volonté, nos émotions. Notre âme est bien là et en général, c'est elle qui règne sur cette maison verte. Donc, on fait ce qu'on veut, ce qui nous arrange, ce qui nous fait plaisir. On a nos objectifs et on ne consulte pas Dieu puisqu'on ne le connaît pas. Ça, c'est cette maison-là. Alors, cette maison-là est, si on devait mettre un toit à cette maison, on pourrait dire que c'est notre moi, c'est notre âme. Dans des cas plus extrêmes de gens qui ont plongé très fort dans l'occultisme, ça pourrait être des forces occultes qui règnent de façon encore plus marquée que notre propre âme, hein, ça. Mais c'est en tout cas pas Dieu, ça c'est ce qu'on peut dire. Lorsque le Seigneur frappe à notre porte et que nous lui ouvrons, nous lui donnons notre vie, nous entrons en relation avec lui, et à ce moment-là, notre esprit redevient vivant. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il fallait que l'esprit qui est la partie de nous qui est en relation avec Dieu puisse de nouveau être en lien et en communion avec le Seigneur. Et moi, un jour, ça m'a vraiment parlé de réaliser que quand la Bible parle d'être mort ou d'être vivant, elle parle de relation. On est mort quand on n'est pas en relation avec Dieu. Et on est vivant quand on est de nouveau en relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus a pu dire, mais celui qui croit vivra même s'il meurt. Hein, c'est parce qu'on reste dans cette relation avec lui. Donc, à notre conversion et à notre nouvelle naissance, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il crée une nouvelle maison. C'est la maison rouge. Il ne rafistole pas le vieux. Il ne répare pas notre vieille nature. Paul dit aussi que cette nature doit mourir. Donc, il crée quelque chose de nouveau qui cohabite avec notre première maison. C'est bien là qu'est le problème. Et c'est là que je rejoins que je refais le lien avec la prédication de dimanche dernier, c'est que la sanctification, finalement, ça va être d'apprendre à rester de plus en plus longtemps dans ma nouvelle maison. Et avec une pointe d'humour, Manfred Engeli nous disait, on a des bretelles, on ne le voit pas sur ce dessin, mais on a des bretelles sur nous, et ces bretelles sont attachées ici à un crochet. Ça veut dire que de temps en temps, on se sent propulsé dans nos vieilles habitudes, dans nos anciennes manières de faire, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je retrouve des manières de penser que j'avais avant de connaître Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans une situation de stress, dans une situation de fatigue, dans une situation difficile, notre vieille nature a tendance à reprendre les rênes, et puis on est reprojeté dans notre ancienne manière de réagir, dans notre vieille maison. Et c'est là qu'il est important de se relever, de reconnaître, comme vous l'a dit Roland, de demander pardon, de retourner dans la nouvelle maison et d'apprendre à vivre dans cette maison-là. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Comment rester de plus en plus dans la nouvelle maison? Ça s'appelle la sanctification, mais ça développe, et c'est là le thème de ce matin, ça développe le caractère de l'enfant de Dieu. Parce que finalement, notre caractère, qu'est-ce que c'est? Ça va être de toujours plus ressembler à Jésus. C'est à ça qu'on est appelé. Alors, j'aimerais être pratique, du moins j'espère que je le serai. Comment rester de plus en plus dans notre nouvelle maison? On y a tous goûté, on y a tous habité, plus ou moins d'heures, de mois ou d'années. Sinon, on ne serait pas là. Mais comment y rester toujours plus? Premièrement, je crois qu'il y a une chose toute simple à rappeler, c'est d'accueillir le règne de Jésus dans notre vie. Parce que dans cette nouvelle maison, si on devait donner un nom au toit de cette maison rouge, c'est Jésus qui règne. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui a l'autorisation de nous conseiller et de nous guider dans nos choix et dans la façon dont il désire qu'on vive. Et vous serez d'accord avec moi qu'il y a certaines situations où on peut honnêtement dire « Oui, Jésus, tu règnes dans ma vie. Là, c'est vraiment toi qui es devant et je suis tes conseils et je choisis l'obéissance et j'y vais pas avec mes idées à moi. » Puis il y a d'autres domaines dans nos vies où on se rend compte, comme dit Christian, que la marge de progression est certaine. Et c'est là que Dieu nous invite à élargir toujours plus les domaines où il aimerait être Seigneur. Parce que plus sera Seigneur de tous les domaines de notre vie, plus on ressemblera à Jésus. Et plus on sera dans une communion profonde, comme on l'a chanté ce matin, et plus on sera dans ce cœur à cœur aussi. Donc, c'est important d'accueillir ce règne de Dieu en nous. Mais ce règne, c'est une décision. Dieu nous laisse libres. Sinon, ce ne serait pas de l'amour. Mais il nous invite à l'accueillir et à choisir librement si nous voulons nous abandonner complètement à lui et si nous voulons soumettre notre volonté à la sienne. Voilà un élément concret qui peut nous aider à nous situer où est-ce qu'on en est. Alors, chaque fois qu'on laisse l'Esprit de Dieu régner, on est dans la nouvelle maison. Et puis, les fois où on reprend les choses en main, on risque d'avoir déménagé dans la maison qu'on connaissait avant de connaître Jésus. Un deuxième élément qui peut nous aider à rester toujours plus dans cette nouvelle maison, c'est la question du regard. C'est de tourner nos regards vers lui. Et j'aimerais vous lire un texte que vous connaissez bien, mais j'aimerais vous le lire dans Parole vivante, parce qu'il souligne avec plus de force encore une vérité là, cette importance de regarder à lui. C'est 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18, où il nous a dit « Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. » Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une idée de mouvement là. Hein. On est transformé. C'est jamais fini jusqu'au retour de Jésus. Nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient la nôtre. Et quand on a chanté tout à l'heure, Seigneur, nous voulons être dans cette gloire, viens avec cette gloire. Et bien, on a des éléments. Hein. On ne peut pas provoquer cette gloire, on ne peut que l'accueillir, mais on peut déjà se tourner dans la bonne direction pour être prêt à l'accueillir. Et là, on a des clés. Sa gloire devient la nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Donc là, on a une clé extraordinaire, c'est que nous sommes transformés en le contemplant, en le regardant, en méditant sa parole, en l'adorant, en restant là devant lui. Et finalement, moi je me rends compte qu'on a deux défis. C'est d'une part faire le choix d'entrer dans sa présence et d'y rester, parce qu'on peut y entrer 5 minutes et puis en ressortir. Donc d'y rester. Et puis une fois qu'on est là, c'est de le laisser faire. Parce que dans ce texte, c'est lui qui nous transforme. Nous sommes constamment transformés pour lui ressembler. Et là, ça rejoint aussi ce que disait Roland le dimanche dernier, c'est que ce n'est pas par nos efforts. Quand on est dans nos efforts, on essaye de on se transforme en bricoleur de notre maison verte. Et c'est très fatigant. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Parce qu'on a tous essayé. Le psaume 34, verset 6. Psaume 34, 6 nous dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Et le visage ne se couvre pas de honte. Donc là, de nouveau, on se rend compte que quand on regarde dans la bonne direction, le fait qu'il y ait la joie sur nos visages, c'est quelque part un signe de cette transformation que Dieu est en train d'opérer en nous. Alors, je vous le disais, je vous donnais déjà une ou deux pistes, comment rester dans cette présence, parce que ça, c'est le défi, hein, non seulement d'y entrer, mais d'y rester. Je vous parlais de l'adoration, je vous parlais d'un chant, on peut chanter, reprendre, on peut s'arrêter sur un verset, tout ça c'est des supports, hein. Le but c'est vraiment d'être dans sa présence, mais on peut s'arrêter sur un verset ou un mot d'un verset qui nous a parlé, qui a résonné en nous, et puis moi j'aime bien transformer la parole en prière, prendre ce verset puis le tourner en prière, soit en prière d'intercession, soit en prière de louange, parce que la parole de Dieu est vivante et puis elle ne retournera pas à Dieu sans accomplir son effet. Donc de tourner la parole en prière, c'est une manière de rester dans cette présence. Le parler en langue, bien sûr, c'est une manière, une manière de prolonger, de rester dans cette maison. Et puis à un moment donné, on sent qu'on n'a plus rien à faire. C'est comme Je prendrais l'image d'un oiseau. Vous savez, un oiseau, quand il s'envole, il a besoin de battre des ailes. Et à un moment donné, il a suffisamment de force pour planer. Et quelque part, quand on est dans la présence de Dieu, c'est ça. Il y a besoin de coups d'aile avec notre louange, avec notre méditation, mais à un moment donné, on reste là dans sa présence. Tout se tait en nous et c'est là qu'il nous transforme vraiment en profondeur. Troisième, et ça sera... Non, je donne encore un petit après. Troisième élément pour rester dans cette nouvelle maison, c'est d'accueillir ses offres. Dieu a des offres pour nous. Dieu a des cadeaux pour nous. J'aime bien garder cette image de maison. Jésus a dit, quand il est juste avant de mourir sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Ce qu'il voulait dire, c'est que tout est prêt maintenant pour que vous veniez vous servir de ce dont vous avez besoin. Alors, si on garde cette image de maison, imaginons notre maison, la nouvelle, hein, la rouge, cette maison-là, elle est complètement prête dans le ciel. Elle est finie. C'est pour ça que il nous a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. Hein, c'est la deuxième maison. L'ancien état, donc la maison verte, est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé, mais vous voyez quand même qu'il y a un processus, hein. C'est pas fini. La nouvelle création a déjà commencé, voici, tout est devenu nouveau, tout cela du début à la fin, c'est l'œuvre de Dieu. C'est de nouveau la traduction de parole vivante. Donc, Paul souligne bien là qu'on est une nouvelle créature, c'est fait. La nouvelle maison au ciel, elle est complètement finie. Mais cette maison rouge sur terre, elle a besoin encore d'être un peu décorée. Il lui manque quelques meubles, il lui manque quelques tableaux. Elle est peut-être encore un peu vide. Donc, d'où ce besoin de processus de sanctification. Donc Dieu, comme on l'a dit, ne rafistole pas, mais il crée du nouveau, parce qu'en fait, il est créateur. Donc, il crée du nouveau. Il va donc remplacer, il va meubler cette maison, cette nouvelle maison, de sa nouvelle création. Et nous, nous pouvons collaborer avec lui. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on peut se revêtir. Lui, il recrée, il nous propose du nouveau, mais nous, il nous faut le saisir. Vous serez d'accord avec moi que des offres, ça nous fait penser à des cadeaux. Et des cadeaux, quand on nous offre un cadeau, ben c'est à nous de l'ouvrir. Ce n'est pas à celui qui nous le donne qui l'ouvre le cadeau. Et c'est ça, Dieu a fait des cadeaux. Et il nous invite à les ouvrir. Et pour les ouvrir, ben on va apprendre à se revêtir. Je vous laisse deux textes qui soulignent cette vérité. C'est Romains 13, le verset 14. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Romains 13, 14. Et puis dans Galates 3, versets 26 et 27. Galates 3, 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, mon dernier point concret pour... rester dans cette nouvelle maison, c'est comment, maintenant qu'on a parlé des offres, eh ben, comment les accueillir dans notre vie. Et quand j'ai demandé au Seigneur de me dire « Mais est-ce que tu aimerais que je parte de quelque chose de concret ?» Ce qui est venu dans mon cœur, et je crois qu'il nous concerne tous, c'est que j'avais le sentiment que Dieu nous disait « J'aimerais développer en vous, en chacun de nous, l'humilité qu'il y avait en Jésus. » On trouve cela notamment dans Matthieu 11, la fin de Matthieu 11, où Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur. » Et puis il dit « Apprenez de moi ». Qu'est-ce que c'est que l'humilité? On en a toutes sortes de définitions. Mais c'est intéressant de se rappeler que humilité vient de humus. Et humus, c'est la terre. Donc, c'est important de se rappeler d'où on a été tiré. Ça nous garde humbles. On a été tiré de la terre. Et la terre, en hébreu, c'est Adama. Donc, vous voyez que Adam, c'est pas pour rien qu'il s'appelait Adam. Ça vient de la terre, Adama. Donc, ça revient aussi à dire que c'est important d'accepter notre place de créature, de ne pas suivre le conseil du serpent qui a dit « Mais vous serez comme des dieux. » On est des créatures. Si on est créature, ça veut dire d'accepter d'être dépendant du Créateur pour avoir la vie, le mouvement et l'être. Ça, c'est une première manière dont je comprends l'humilité. Une autre chose que j'aimerais souligner par rapport à cela, c'est de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. L'humilité, c'est ne pas s'écraser sous le tapis, mais c'est ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, ne pas chercher à se créer un personnage ou se cacher derrière une façade, mais être tel qu'on est, finalement. Et être tel qu'on est, c'est reconnaître nos qualités et les dons que Dieu nous a donnés. C'est également reconnaître nos faiblesses et demander au Seigneur de les rencontrer, comme Laetitia l'a prié ce matin. Je crois bien que c'était Laetitia. Je recite Manfred Engeli, qui a donné lui aussi une définition de l'humilité. Il a dit... C'est d'avoir de plus en plus la crainte de Dieu et de moins en moins la crainte des hommes. Avoir de plus en plus la crainte de Dieu et de moins en moins la crainte des hommes. Alors, quand Dieu nous fait une offre, alors si je reste sur cette question de l'humilité, la non-humilité est en général l'orgueil, mais un orgueil qui peut se présenter sous toutes sortes de facettes. Ça peut être prendre les gens de haut, ça peut être susceptible, la susceptibilité peut être une forme d'orgueil. Il peut y avoir différentes facettes à l'orgueil, mais ce qui est important d'abord, quand Dieu souligne quelque chose en nous, c'est de reconnaître la situation. Ensuite, c'est important de déposer. Par exemple, de dire « Seigneur, je te demande pardon pour cette attitude-là d'orgueil qui se manifeste sous cette facette-là et je m'en débarrasse, je m'en dévais. » Comme il est dit dans Colossiens 3. Dans Colossiens 3, il nous est parlé de nous dévêtir et de nous revêtir. Donc je m'en débarrasse et je m'en dévais comme d'un vieil habit. Et puis j'accueille, et quand je fais ça, je change de maison. Je passe de la maison verte à la maison rouge. Et quand je suis dans la nouvelle maison, dire « Seigneur, maintenant on va décorer un peu mieux cette maison. Qu'est-ce que tu veux me donner ?» Alors il peut me donner l'humilité, certainement, mais ça va être peut-être aussi, comme il y a des facettes d'orgueil, il y a des différentes facettes de l'humilité. Et par exemple, ça peut être un désir d'honorer quelqu'un, ça peut être un désir de voir l'autre comme Dieu le voit, ça peut être de l'humilité, ça peut être d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui n'arrive pas à faire quelque chose par lui-même. L'humilité peut revêtir toutes sortes de facettes, et je peux lui dire « Seigneur, j'accepte cette offre-là, je te demande dans cette nouvelle maison de créer quelque chose de nouveau en moi, d'amener un tableau, un meuble qui n'était pas encore là. Parce que si on essaye d'avoir de l'humilité par nous-mêmes, ça ne va juste pas. Si je vous prends l'exemple d'une cuisinière, puis je vous dis, il n'y a pas de cuisinière dans votre cuisine, et puis demander de faire un repas sans cuisinière, ça ne va juste pas. Donc on ne peut pas être humble si on n'a pas reçu ça de Dieu. Donc de recevoir cette offre de Dieu, de recevoir ce cadeau, et on peut le dire en prenant une décision dans la prière. Dire « Seigneur, j'accueille ce cadeau, je le déballe avec l'enthousiasme d'un enfant qui déballe son cadeau à Noël. » Et là, ça devient possible de marcher différemment. Parce que j'ai reçu la portion de la nouvelle création dans ma nouvelle maison qui me permet de développer une nouvelle attitude et un nouveau comportement. Alors que si j'essaye par des efforts humains sans avoir reçu ce qu'il me fallait, ben, vous avez remarqué comme moi qu'on va au mur. Donc j'apprends à marcher différemment. Par exemple, je peux me dire, mais une fois par semaine, soyons pas trop prétentieux, parce qu'il faut réussir à développer une nouvelle habitude. Une fois par semaine, je choisis de me réjouir des dons que Dieu a fait à cette sœur-là et de ne pas la jalouser. Une fois par semaine, je me réjouis profondément de cela. Et là, on met en place une nouvelle habitude. C'est possible puisque Dieu a mis en nous l'humilité. Et ce qui est génial avec Dieu, c'est qu'il y a un domino, un effet de domino. C'est que si je suis fidèle à vivre ça, mais je vais voir qu'avec une deuxième sœur, ça sera plus facile. Puis après, je m'exercerai avec quelqu'un d'un membre de ma famille, parce que des fois, c'est un peu plus difficile. Et puis, ça sera toujours plus facile, parce que j'aurai pris une habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a vraiment un secret pour collaborer à cette transformation que Dieu fait en nous qui porte vraiment du fruit. Puis vous allez me dire, oui, bah alors si je retourne dans ma vieille maison, sous un coup de stress, bah non, je n'ai pas envie de bénir ma sœur et de me réjouir des dons que Dieu a mis. Et je ne le fais pas. Bah, je le reconnais simplement. Je reconnais que mes bretelles elles ont encore un peu d'élasticité, que j'ai été reprojetée dans ma vieille maison et que je peux revenir dans la nouvelle. Il y a toujours la grâce de se relever et de dire non, c'est ça que j'avais choisi. J'avais choisi de la bénir une fois par semaine. Ben, je vais persévérer jusqu'à ce que ce soit une habitude. Et quand je persévère dans le nouveau comportement, eh ben, il devient une habitude. Tous ceux qui ont conduit en Angleterre, ils peuvent le confirmer. Au début, ça fait très bizarre. Et puis, quand je m'habitue à conduire à gauche, moi, je me souviens, on était avec Marianne et Ginette, hein, il y a longtemps, oh là là. On était en Écosse et puis on s'était donné un mot. Tous les matins, la première des trois qui y pensait disait aux deux autres, on roule à gauche. Et au bout d'une semaine, ça allait nettement mieux, je peux vous dire. Voilà, donc, c'est possible d'être lumière du monde. Pourquoi ? Ben parce que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et puis que c'est lui qui ensuite en habitant en nous, permet que cette lumière brille. S'il est la lumière du monde, il a aussi ajouté maintenant vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Donc, continuons à le laisser agir dans nos vies. Il a déjà commencé, mais on n'est pas au bout du chemin. Persévérons dans cette marche de le suivre fidèlement, d'être dépendant de son esprit, d'entrer, comme il a aussi été dit ce matin, dans les œuvres préparées d'avance. Puis alors nous reflèterons toujours plus ce caractère de l'enfant de Dieu.